Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Monde d'emploi, l'émission des précaires et des chômeurs, avec ce soir les journalistes du PIAF et les altermondialistes d'Attaque.
Et pour commencer l'émission, qui a pour thème aujourd'hui, discutons démocratie, parlons de réforme démocratique, on ne va pas se tourner du côté de l'UMP, non. On va se tourner du côté d'un pays où il fait un peu plus chaud, l'Islande, n'est-ce pas Magali?
Oui, puisque le 20 octobre dernier, les Islandais ont voté à plus de 63% en faveur d'un projet de nouvelle constitution, suite à un processus démocratique qui laisse plutôt rêveur, en tout cas dans son concept. Alors, petit rappel historique proche, c'est en 2008, l'Islande est frappée de plein fouet par la crise financière, le pays se retrouve au bord de la faillite, et le FMI, là-dessus, pointe son nez, comme habituellement, pour exiger les traditionnelles mesures d'austérité et les mesures antisociales. Le peuple islandais n'avait alors plus vraiment confiance en sa classe politique et s'est largement mobilisé pour arriver finalement à faire démissionner le gouvernement. La gauche, alors, arrive au pouvoir pour une première fois depuis les années 30 et le peuple redescend dans la rue pour soumettre le remboursement de la dette à référendum. Le non l'emporte alors à 93%, ce qui faisait donc de l'Islande l'un des rares pays au monde à refuser de payer sa dette. Alors, pour la petite histoire, c'est qu'aujourd'hui, le taux de croissance en Islande, il est de plus de 3% et le taux de chômage de 4,8%. Donc, on peut s'interroger sur l'utilité de mettre en place des mesures antisociales telles qu'elles sont préconisées par le FMI. Alors, l'autre revendication de la population islandaise, c'était d'élaborer une nouvelle constitution. Et là-dessus, le nouveau gouvernement a répondu présent et a mis en place tout un processus démocratique pour élaborer cette nouvelle constitution. Alors d'abord, il y a eu un échantillon d'environ 1000 personnes sélectionnées au hasard qui a été constituée pour plancher sur les grandes lignes directrices du projet de constitution. Et puis, suite à ce forum, une assemblée constituante a été élue, composée de représentants de la société civile, pour rédiger le projet. À cela s'est ajoutée toute une série de réunions publiques et la possibilité pour les Islandais de réagir via Internet à ce projet de constitution. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, même si les Islandais ont voté en faveur de ce projet, c'est loin d'être gagné, puisque il faut encore que ce projet soit voté une première fois avant les élections législatives d'avril 2013 par le Parlement, puis une seconde fois à l'issue du scrutin. Donc, de nombreux parlementaires de droite ont exprimé leur opposition au projet et le gros problème, c'est que ces parlementaires, cette droite a de grandes chances de l'emporter lors des élections législatives et ils auront alors tout le loisir pour enterrer le projet. Donc pourquoi sont-ils farouchement opposés à ce projet de constitution ? Il suffit d'aller voir d'un petit peu plus près le contenu du projet. Alors tout d'abord, le peuple islandais demande via ce projet l'égalité du droit de vote, ce qui signifie concrètement de mettre fin au système électoral actuel qui permet une surreprésentation du monde rural en nombre de députés par rapport aux habitants de la capitale Reykjavik. Et donc, c'est ce qui permet aux partis de droite de diriger le pays sans discontinuer depuis les années 30, jusqu'à donc 2009. Et l'autre souci majeur pour la droite lié à ce projet de constitution, c'est qu'il prévoit, par exemple, que les ressources naturelles doivent appartenir au peuple. Ce qui n'est pas du tout du goût des propriétaires de bateaux de pêche, qui sont les traditionnels soutiens du parti de l'indépendance, et qui voient bien sûr une grande menace pour leur liberté commerciale. Donc si, malgré tout, le projet aboutit, ce qu'on espère tous, ce serait quand même une bouffée d'air frais pour la démocratie en Europe, et puis... ça continuerait, en tout cas l'Islande continuerait à nous fasciner suite à cette décision qu'ils ont eue de refuser de payer leurs dettes.
Ouais. Refuser de payer leurs dettes et puis la volonté et la mise en œuvre d'un changement de démocratie, un changement de façon de faire la vie politique d'un pays. Alors c'est justement le thème que l'on va aborder avec notre invité. Donc notre invité, c'est Jean-Marc Jacob, historien, hein, bien sûr, mais aussi un spectateur attentif de la vie politique actuelle, ce qui fait de toi donc quelqu'un qui a un regard particulier sur les institutions démocratiques de notre 5e République. Alors on va parler avec toi, entre autres, de la commission Jospin. Donc cette commission, on en a entendu parler dans les médias. Elle a été mandatée par François Hollande, c'est une promesse de la campagne électorale, pour proposer des idées de réforme de notre système politique. Mais un petit peu avant tout, peut-être, vu que tu es historien, revenir un peu sur l'histoire, et est-ce que tu peux nous parler un peu des systèmes existants, parce que finalement, il n'y a pas que la Ve République dans la vie.
Alors déjà, j'aurais une réflexion préliminaire sur la commission Jospin. C'est le fait qu'on confie une commission de réforme des institutions à une série de vieux chevaux de retour de la politique qui ont tous usé leur fond de culotte sur les bancs de la 5e République. Ce qui veut dire que déjà, par le choix des membres de la commission, on ne va pas vers une réforme fondamentale comme ce serait nécessaire, mais vers une réformette, et encore une réformette si le Parlement accepte les réformes proposées. Alors, en ce qui concerne l'histoire des institutions, en France, ça commence avec la Révolution française, puisque jusqu'à 1789, il n'y a pas de constitution, il y a juste la coutume royale qui s'est instaurée petit à petit à partir du Xe siècle. Et avec la Révolution, on va avoir la première vague qui est la mise en place d'une monarchie parlementaire qui va être mort-née à cause de l'affaire de Varennes que tout le monde connaît bien. Et on va ensuite aller vers une république populaire qui est la République de 1793, mais qui ne va pas fonctionner non plus du fait que la France est en état de guerre et d'urgence. Donc en fait, c'est une constitution, elle aussi, donc mort-née. Et après, on va passer au directoire, qui est une constitution d'une république bourgeoise qui ne sert à rien, puisqu'elle ne va juste permettre un interrègne jusqu'à l'arrivée de Napoléon. Et pour avoir une véritable volonté démocratique, il faut repartir à 1848 avec la Deuxième République, qui va faire une erreur. Les institutions étaient plutôt intéressantes, mais elle va faire une erreur, c'est de vouloir en fait faire un roi républicain. Et justement, c'est ce roi républicain qui va faire un coup d'État et prendre le pouvoir. Il s'agit bien sûr de Napoléon III. Alors, quand Napoléon III va enfin dégager, on va avoir la Troisième République, qui est une république parlementaire, mais qui là aussi est née dans des circonstances un peu bizarres, puisqu'elle est née de la volonté des royalistes. Elle est née de la volonté des royalistes et des républicains. En ce sens que les républicains étaient encore minoritaires et par rapport aux monarchistes et aux bonapartistes. Et finalement, les royalistes ont accepté la République comme une figure de transition en attendant l'avènement d'un nouveau roi, puisqu'il y avait un conflit entre deux candidats, un peu du genre UMP 2012. Et finalement, les deux candidats ne se sont pas entendus, les royalistes se sont fait défaire aux élections suivantes, et la République s'est installée. Mais la Troisième République, qui pour l'instant est la plus longue de l'histoire de France, n'a en fait pas de constitution. C'est une constitution de fait, ce sont des principes fondamentaux, ce sont des lois organiques, mais il n'y a pas de constitution stricto sensu. La première constitution stricto sensu véritablement durable, ce sera 1946, après la Seconde Guerre mondiale, pour la 4e République, qui met en place un régime parlementaire. Très parlementaire, ce qui va attirer beaucoup de critiques à cause de l'instabilité ministérielle. Et c'est à cause de cette faille que De Gaulle, profitant de la faille de la 4e République et de la guerre d'Algérie, va pouvoir imposer une nouvelle monarchie républicaine qui s'appelle la 5e République.
Alors on vient de voir toute cette liste, on voit qu'il y a plusieurs systèmes qui ont été mis en place. Alors si on veut juste redéfinir rapidement l'opposition, système parlementaire ou système présidentiel.
En fait, les deux ont des philosophies totalement différentes. Le système présidentiel n'est jamais qu'une formule démocratique de la monarchie. C'est-à-dire qu'il faut un personnage qui, certes, ne sera pas héréditaire, il sera élu d'une manière ou d'une autre, plus ou moins démocratique selon les périodes, les pays et les systèmes, mais il y a un personnage qui est en fait un succédané du roi. Si nous sommes dans un régime parlementaire, ce sont les assemblées qui gouvernent réellement, qui ont la main sur le Premier ministre et le gouvernement, et le président n'est en fait qu'une potiche symbolique. Donc c'est vraiment deux philosophies qui s'opposent. Soit on a un monarque républicain, c'est De Gaulle qui emploie lui-même le terme lorsqu'il fait le commentaire en aparté de la Constitution de 58, ou alors on a un président potiche, comme sous la 3e et 4e République, et un parlement qui dirige vraiment le pays en faisant et en défaisant les ministères et les premiers ministres.
on voit ces deux systèmes. Et puis dans l'imagerie populaire, la 4e République, tu l'as dit, c'est l'instabilité. Et la 5e République, c'est la stabilité. Est-ce qu'on peut s'arrêter à cette description, ou est-ce qu'on peut finalement trouver que la 4e République parlementaire n'est pas aussi terrible qu'elle l'était ?
Alors, les deux assertions sont vraies et fausses. C'est-à-dire que effectivement, la 4e République était complètement minée par l'instabilité ministérielle, mais c'est plus un phénomène de parti qu'un phénomène d'institution. Les institutions auraient très bien pu fonctionner autrement avec d'autres hommes et d'autres partis. Quant à la 5e République, elle ne fonctionne pas parce qu'elle ne laisse plus de place aux partis. Donc, il y en a une qui laissait trop de place aux partis, aux individus, et l'autre qui ne laisse plus de place qu'à un seul individu. Et donc, entre les deux, il faudrait trouver une autre voie. Et c'est pour ça que depuis quelques années, un certain nombre d'hommes politiques, soit par opportunisme, on peut le dire carrément, soit parce qu'ils le pensent vraiment, appellent de leur vœu une 6e République qui serait tirée les leçons du passé, c'est-à-dire des erreurs institutionnelles de la 4e République et des erreurs patentes de la 5e République.
Alors justement, ces erreurs, c'est peut-être on peut les nommer peut-être des dérives, c'est-à-dire finalement un système est en place et amène progressivement un état de fait qui est très critiquable. On peut peut-être citer quelques points. Par exemple, évidemment, dès qu'il y a un système politique en place, arrive une nouvelle profession, c'est celle de politicien.
Oui, mais ce n'est pas une fatalité. Par contre, la 5e République le rend fatal. C'est-à-dire que dans un système réellement démocratique, avec des mesures qui visent à renforcer la démocratie, on en parlera certainement après, la professionnalisation à outrance de la politique n'est pas une fatalité. Dans la 5e République, une République qui est complètement tirée vers l'élection présidentielle, le reste devenant subsidiaire, ça veut dire que nous avons une République de personnes, de partis, et en plus un bipartisme qui s'installe depuis 30 ans maintenant en France, et qui mine le débat politique, qui le supprime, et on n'a plus que des techniciens de la politique qui sont finalement tellement des professionnels de la politique que la plupart de nos représentants sont des gens qui n'ont jamais travaillé réellement. C'est-à-dire qu'ils ont toujours travaillé dans le milieu politique. Quand par hasard, ils ont fait un passage dans d'autres professions avant, c'est un passage qui est en général bref, et qui parfois amène des conflits d'intérêts, comme par exemple les ministres ou les députés qui ont été médecins, qui ont travaillé pour les laboratoires. On en parle beaucoup aujourd'hui. Bon, donc c'est pas forcément mieux quand ils ont une carrière professionnelle avant. Mais si on fait le tour des députés, des sénateurs et des ministres de tous les derniers gouvernements, c'est absolument catastrophique de voir justement l'absence de réalisme, l'absence d'ancrage dans la réalité de ces hommes politiques.
Oui. Ils sont peut-être pas ancrés dans la réalité, mais ils sont souvent ancrés dans leur profession. Ils en cumulent un certain nombre en même temps. Ils en cumulent très longtemps. Donc ça crée une caste politique. On dénonce fréquemment les liens avec les milieux d'affaires, avec les milieux journalistiques.
Alors, tout à l'heure, j'ai commencé par 1789, et ce qu'il y a de dramatique dans la situation actuelle, c'est qu'on s'aperçoit que la politique devient pratiquement héréditaire. C'est-à-dire qu'on a remplacé une hérédité basée sur la noblesse par une hérédité de fait de la politique. Là aussi, si on fait le tour des députés, on voit le nombre de députés qui sont fils, filles, neveux ou nièces d'anciens députés ou d'anciens sénateurs. C'est assez intéressant. Et quand ce ne sont pas des filiations directes, on pourrait dire que ce sont des filiations à la romaine, avec des fils choisis par des grands hommes politiques qui intronisent leur poulain. Et donc on n'en sort pas.
Alors on n'en sort pas, on imagine tous les liens de toute cette belle clique politique en place. On peut imaginer aussi tout ce qu'on a envie de leur dire, c'est-à-dire finalement, entendez-vous bien ensemble, vivons heureux, enfin bref, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Les pavés volent comme de grands oiseaux gris en plein dans la gueule des flics.
Vous venez d'écouter Jean-Yann et vous écoutez à présent Fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, qui est aujourd'hui animée par une équipe composée de militants intermondialistes, membres de l'association Attaque et du journal Le Piaf. Et nous interviewons aujourd'hui Jean-Marc Jacob, historien et bon connaisseur de la chose politique, donc de notre chère
République.
C'est-à-dire
Res Publica.
Res Publica, notre République, notre démocratie bien aimée. Et on vient d'en énumérer quelques dérives, mais on n'avait pas fini toute la liste. Parce qu'après avoir des politiciens proches du milieu d'affaires, des politiciens qui se reproduisent entre eux parfois, on peut aussi parler du gros problème des cumuls, par exemple.
Alors le problème des cumuls est très ancien en France et il tient à la structure sociale et politique de la classe politique, mais aussi à la tradition rurale de la France, avec une France de notables. La France a pendant longtemps, et elle est encore une France de notables, avec des personnalités qui ont de l'importance, et ces personnalités ont tendance à phagocyter le politique dans leur région. Et c'est vrai aussi au niveau national. Donc il y a déjà un cumul à cause de ça. Et après ça, dans la phase moderne des choses, c'est-à-dire sous la Ve République, la France des notables a continué avec en plus des institutions qui ont permis l'accumulation de fonctions depuis les municipalités, les conseils généraux, conseils régionaux qui sont apparus donc sous la Ve République, puis les mandats nationaux.
Alors c'est justement ce thème principal du cumul des mandats qui a poussé, je pense, à créer la commission Jospin, qui s'est donc été auditionnée le 27 novembre dernier à l'Assemblée par la commission des lois dans le but de faire des propositions concrètes. Il y en avait justement 35 propositions concrètes pour essayer de réformer notre système politique. Alors on peut citer quelques points importants quand même. Certains d'affichage semblent être de bonnes réformes.
Alors, la commission Jospin propose un certain nombre de choses. Ça peut apparaître comme de bonnes réformes, sauf qu'elles sont souvent des demi-réformes. Alors, parmi ces demi-réformes, il y a le non-cumul des mandats. Mais on pourrait penser à un non-cumul des mandats intégral. Ce n'est pas du tout le cas. La commission Jospin propose de ne pas pouvoir cumuler des mandats nationaux de parlementaires avec des mandats exécutifs locaux. Ça veut dire qu'un député pourrait très bien être quand même conseiller général, conseiller régional et conseiller municipal. Donc effectivement, il ne pourrait pas être président ou vice-président d'un conseil général, mais il pourrait faire tout le reste. Et on sait très bien que dans un certain nombre de cas, quand des gens ont été présidents d'un conseil général, même s'ils démissionnent de leur fonction, ils continuent en sous-main à diriger leur département. Donc c'est loin d'être satisfaisant. C'est un premier pas, mais c'est loin d'être satisfaisant. Et le problème aussi, c'est que le non-cumul risque de ne jamais être voté par les assemblées, parce qu'il s'agisse des députés ou des sénateurs, une grande proportion d'entre eux sont des cumulards. Et ils ne veulent pas choisir, puisque ce qui leur permet, par exemple, d'être sénateur, c'est d'avoir un pied dans les conseils généraux ou dans les municipalités importantes. Ils ne veulent pas donc perdre leur chance d'être au Sénat en perdant leurs sièges locaux. Donc il y a une sorte d'impossibilité pour eux à voter cette règle du non-cumul. Après ça, il y a la proportion d'une introduction de la proportionnelle. C'est quelque chose que beaucoup de gens demandent pour des raisons démocratiques, puisque le scrutin majoritaire n'est pas démocratique en lui-même. Mais c'est pareil, là on a une mesure partielle. La commission Jospin propose 10% des sièges de députés, ce qui fait à peu près 58-59 députés. Ça ne changera pas fondamentalement les choses. Si on estime que sur l'ensemble des députés, il n'y en a que 58, ça en laisse à peu près 320 qui seront élus au scrutin majoritaire.
Et tout le monde n'est pas aujourd'hui convaincu qu'un retour au système parlementaire est un bienfait, ni même que le scrutin majoritaire est si antidémocratique que ça. Est-ce que tu peux donner des exemples pour prouver ta conviction?
L'exemple est tout simplement mathématique. C'est quand on regarde les élections législatives de la Ve République, il est arrivé déjà deux fois que la majorité qui va gagner et qui va donc former le gouvernement était réellement minoritaire en voix. Elle était majoritaire en siège, mais minoritaire en voix. C'est arrivé deux fois. Donc ça prouve bien qu'il y a un déficit démocratique dans le scrutin majoritaire. L'autre chose qui entache de nullité, pourrais-je dire, le scrutin majoritaire, c'est que c'est un scrutin qui favorise les gros partis et qui empêche les petits partis d'éclore. Et on l'a très bien vu aux dernières législatives, avec le score important du Front National, on l'a vu avec le score important du Front de Gauche, deux dynamiques très importantes dans l'élection présidentielle. Mine de rien, si on cumule, si j'ose dire, le Front National et le Front de Gauche, on arrive à presque un électeur sur trois. et il y a 2 sièges pour le FN. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans un système démocratique et on n'est pas dans un système représentatif. Alors évidemment, je ne souhaite pas voir 20% de députés FN au Parlement, mais finalement, le fait de refuser la proportionnelle creuse le lit d'une critique facile anti-parlementaire qui est un des axes de campagne permanent de l'extrême droite en France.
Alors, il y a d'autres propositions de la commission Jospin.
Alors, il y a d'autres propositions qui sont sympathiques, comme par exemple la suppression des 500 signatures, qui sont également un handicap démocratique, puisque en fait, seuls les grands partis et ceux qui vont négocier avec les grands partis pour avoir les miettes des signatures d'élus vont pouvoir se présenter. Avec la proposition Jospin, on remplacerait ces 500 signatures d'élus par un parrainage populaire, qui n'est d'ailleurs pas 100% défini. Ce qui permettrait à beaucoup plus de candidats de se présenter. Bon, donc ça, c'est plutôt une bonne proposition. Ensuite, il y a des choses qui sont subsidiaires, mais qui, au niveau symbolique, ne sont pas inintéressantes, comme par exemple supprimer le droit des anciens présidents de la République de siéger au Conseil constitutionnel. Ce qui est assez bien, puisqu'on voit que dans les derniers présidents de la Ve République, le cas ne s'est posé, en fait, que pour Giscard, qui est membre du Conseil constitutionnel depuis 81, qui est largement payé pour ça. Le cas s'est présenté pour Jacques Chirac, et le cas se présente maintenant pour Sarkozy. Les autres présidents étant morts juste après ou pendant leur mandat, comme ça a été le cas pour Pompidou, donc la question s'était pas posée. Avoir des présidents au Conseil constitutionnel, on peut estimer que ça a une logique. Quand on a Jacques Chirac avec le nombre de casseroles judiciaires qu'il a derrière lui, ça peut faire sourire. Sarkozy avec ses ennuis judiciaires aussi, ça pourrait faire sourire s'il y entrait.
Alors ça, ce sont des propositions faites par la Commission, mais on pourra en avoir envie d'en faire d'autres, des propositions peut-être qui iraient un petit peu plus loin.
Oui, c'est-à-dire que là, c'est jamais qu'un replâtrage cosmétique de la Ve République, histoire de faire bien, de créer des débats, mais finalement, ça ne change pas la donne. Ça ne change pas la donne, puisqu'on reste sur la base d'un régime complètement présidentiel, on reste sur la base d'un scrutin majoritaire hyper dominant, et on reste sur un mode d'élection du Sénat qui est archaïque et absolument pas représentatif. Donc, ça va pas du tout assez loin. Alors, les propositions, il y en a un certain nombre. La première, c'est de revenir à une proportionnelle intégrale pour l'élection des députés, sous une forme ou sous une autre. Ça peut être national, ça peut être un scrutin régional. Mais proportionnelle intégrale. La deuxième proposition qui est évidente, c'est de complètement réformer le Sénat. Parce que l'élection au suffrage indirect du Sénat, comme Magali le disait tout à l'heure pour l'Islande, surreprésente les campagnes par rapport aux villes, ce qui a permis à la droite de détenir le Sénat sans discontinuer depuis la création du Sénat jusqu'en 2011. Donc là aussi, il y a un problème de représentativité et de légitimité. Après ça, on peut remettre en question le côté présidentiel du régime et remettre en question l'élection du président au suffrage universel, qui a pourri complètement la Ve République. La Ve République était déjà une monarchie en 58. En 62, la réforme du mode d'élection du président au suffrage universel direct, le transforme réellement en monarque républicain. Et c'est à partir de là qu'on va glisser vers un présidentialisme complètement délirant. Donc il faudrait que le président soit élu par les 2 assemblées, comme c'était le cas sous la 3e ou sous la 4e République, ou même dans les 4 premières années de la 5e République. Ensuite, il y a des choses plus hardies et plus modernes, pour aller plus loin, justement, pour sortir la caste politique quasi héréditaire qu'on a au pouvoir. Ce serait de donner, par exemple, la possibilité de référendum d'initiative populaire, la possibilité de motion de défiance populaire, c'est-à-dire qu'un certain nombre de citoyens puissent signer une motion de défiance contre le gouvernement et demander un référendum pour destituer un gouvernement qui ne tient pas ses engagements. Et en marge de tout ça, il y a aussi des réformes importantes d'institutions qui ne sont pas forcément directement politiques, mais qui peuvent aussi avoir un rôle. Par exemple, il faudrait réformer la justice pour qu'elle soit vraiment indépendante du pouvoir politique, et ce qui lui permettrait de punir réellement sévèrement les hommes politiques déviants. Parce que nous avons énormément d'hommes politiques déviants qui se le permettent parce que la justice est aux ordres du garde des Sceaux, et l'a toujours été, ce qui couvre les hommes politiques. Et il est quand même totalement anormal d'avoir des gens qui sont condamnés pour abus de biens sociaux, des gens qui sont condamnés pour des malversations électorales, et qui se retrouvent élus 5 ans après. à des postes très importants. Et pour finir, il y a une chose importante aussi dans la Constitution, mais Yannick en parlait tout à l'heure pour l'Islande, c'est d'imposer des droits sociaux, des droits économiques dans la Constitution, ce qui était déjà un petit peu fait en 46, mais qu'il faudrait réaffirmer.
Eh bien, voici des belles propositions. On aurait préféré voir la commission Jean-Marc que la commission Jospin, d'autant que le contenu de la commission Jospin ne passera peut-être jamais en projet de loi par rapport au fait, bien comme on l'a dit tout à l'heure, que c'est les députés eux-mêmes qui s'auto-feraient harakiri. Alors, nous allons continuer encore sur le terme de la réforme politique, parce que nous recevons dans notre émission un nouvel invité qui, je crois, a toujours manifesté une certaine admiration pour un système politique bien particulier, la monarchie. Et il s'agit, ni plus ni moins, pour inviter, du grand Salvador Dali. Salvador Dali, bonsoir.
Appelez-moi maître.
Bonsoir maître. Et merci de nous avoir réservé quelques instants de votre éternité, nous en sommes très flattés. Dites-moi maître, vous devez être heureux qu'on vous consacre cette magnifique exposition à Beaubourg.
Dali est très mécontent. Ce n'est pas au centre Pompidou qu'il méritait d'être exposé, mais au Louvre, en compagnie des grands maîtres classiques comme Velázquez ou Vermeer. Le Louvre, c'est la magnificence de la monarchie. Ce n'est pas comme ce gros colon intestinal du centre Pompidou.
Alors, à propos de monarchie, comment vous vous situez politiquement ? Monarchiste ?
Je suis monarchiste, catholique romain, parce que je suis espagnol, né dans cette Espagne d'où je tiens ma légitimité. Le monarque tient sa légitimité de Dieu, et c'est ce qui fait toute la différence avec les petites ambitions personnelles de tous ces insectes que sont les petits politiciens de la République laïque.
Pourtant, vous n'avez pas toujours exprimé cette opinion.
Je vais répondre honnêtement à votre allusion perfide. Je n'ai eu l'illumination monarchiste, qu'en 1948. Parce qu'avant, lorsque j'étais jeune, le contexte était différent. Après la Première Guerre mondiale, beaucoup d'entre nous mettaient leurs espoirs dans la révolution bolchevique. Et j'ai même fréquenté des anarchistes parce que mieux valait l'anarchie civile et populaire que l'anarchie des canons et des bombes. Ensuite, par pragmatisme, j'ai fondé un groupe socialiste. Mais Dali n'est pas fait pour le troupeau. Il est appelé à explorer l'énergie cosmique et à la traduire à travers sa peinture.
Mais tout de même, vous avez adhéré à notre groupe, celui des surréalistes, et ce dès 1929.
Ce sont les surréalistes qui ont adhéré à Dali. Mais lorsqu'ils se sont enfermés dans le carcan marxiste-léniniste, Dali leur a dit adios. Parce qu'en fait, la politique n'est qu'une anecdote de l'histoire.
Excusez-moi, maître, mais n'est-ce pas plutôt André Breton qui vous a rejeté des surréalistes ?
Breton n'a pas apprécié l'érotisme débridé de mes rêves, totalement libre, surtout celui que j'avais fait de lui et que je lui ai raconté, où je me voyais en train de l'enculer.
Bien, nous enchaînons. Vous reprochez à Breton et à ses amis leur orientation politique, mais il me semble qu'ils se soient inquiétés pour leur part d'une certaine fascination d'Hitler, qu'Hitler a exercé sur vous à cette époque.
Ce ne sont pas les idées petites bourgeoises d'Hitler qui m'intéressaient, mais son regard, plus fascinant encore que celui de Velázquez, et son dos dodu, dont on ne se rend compte que de profil alors qu'on nous le montre toujours de face. Pour moi, Hitler, c'était le grand paranoïaque comestible, alors que moi, j'ai créé la paranoïa critique. Et d'ailleurs, je l'ai peint dès 1937 dans mon tableau « L'énigme d'Hitler » où sa minuscule photo abîmée voisine dans une assiette avec des cacahuètes. Et c'est ainsi que je prophétisais la fin d'Adolf. À la mort d'Hitler, Dali a pris une décision irrévocable. Il allait devenir la plus grande courtisane de son époque Et c'est ce qu'il a fait.
Une dernière question, Salvador Dali. Pardon, maître. Que conseilleriez-vous aux gens qui ne vous connaissent qu'à travers votre mythe et vos excentricités? Pardonnez-moi, et qui aurait envie de découvrir le génie véritable de Salvador Dali?
Ils peuvent aller voir mes tableaux pour se rendre compte combien ils sont mauvais en comparaison de ceux du grand Velázquez. Mais je leur dirais surtout de lire le journal d'un génie dans lequel Dali explique en long, en large, en travers et surtout tout en courbes logarithmiques semblables à la corne du rhinocéros. Dali explique donc ce qu'est sa fameuse méthode paranoïa critique.
Eh bien, soyez certains que nous n'allons pas manquer de le lire d'urgence. Merci, maître, d'avoir interrompu un instant votre éternité pour descendre jusqu'à nous. Et nous écoutons à présent Robert Charlebois, Oisichu. Vous venez d'écouter Robert Charlebois, la chanson « Oisichu ». Et vous écoutez aussi Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, aujourd'hui animée par une équipe de militants altermondialistes, membres de l'association Attaque et du journal Le Piaf. Si nous venons d'écouter une chanson québécoise qui nous parle du Grand Nord, c'est parce que Gaël va nous parler à présent des contrats internationaux dont font partie le Canada.
Oui, c'est une histoire canadienne qui pourrait devenir une histoire européenne. Depuis le milieu des années 2000, plusieurs compagnies exploraient les gisements de gaz et de pétrole dans la vallée du fleuve Saint-Laurent au Québec. Or, une étude d'impact commandée par le gouvernement a montré que la prospection et l'extraction d'hydrocarbures menaceraient la biodiversité, le tourisme et la pêche. Donc en 2011, une loi du Québec a suspendu toute exploration ou extraction gazière ou pétrolière dans l'estuaire du Saint-Laurent, c'est-à-dire une partie seulement de la zone explorée. Et selon cette loi, aucune indemnité ne sera versée aux exploitants. Une des compagnies exploitantes, la Lone Pine Resources, a annoncé début novembre qu'elle porterait plainte, car cette loi la prive de 12% de sa surface d'exploration. Alors comment une entreprise peut-elle porter plainte contre une loi votée par un État? La réponse, c'est l'ALENA, un accord de libre-échange entre le Canada, les USA et le Mexique. Et comme tous les traités internationaux, cet accord prime sur les lois nationales. Or, l'ALENA contient un dispositif de protection des investissements, protection entre guillemets, qui permet à une entreprise qui investit dans un État de poursuivre cet État en justice si une loi ou un règlement de cet État réduit les profits escomptés. Concrètement, si vous élisez des gauchistes qui instaurent les 35 heures ou qui édictent des normes anti-pollution plus strictes, ça nuit aux profits et donc l'État peut être poursuivi par les entreprises. Ce dispositif de l'ALENA est réservé aux investissements transfrontaliers, c'est-à-dire d'une entreprise d'un État vers un autre État. Or, Lone Pine Resources est une entreprise canadienne. L'astuce, c'est qu'elle est officiellement enregistrée au Delaware, un État des États-Unis. Bon, en réalité, elle a juste une boîte à lettres.
C'est aussi un paradis fiscal, hein. C'est pas pour rien qu'ils sont au Delaware.
Ça a deux avantages, donc. Premièrement, c'est un paradis fiscal, comme le dit Jean-Marc. Et puis, deuxièmement, ça permet de recourir à l'ALENA et donc de réclamer 250 millions de dollars d'indemnisation pour son expropriation. Alors tout ça peut vous paraître de lointaines histoires, et pourtant ça nous concerne. Parce que depuis 2009, l'Union européenne et le Canada négocient un accord de libre-échange qui contient exactement le même dispositif de protection, entre guillemets, des investissements que l'ALENA. Ça signifie que si une entreprise canadienne investit dans le gaz de schiste, dans un État européen qui l'autorise, par exemple aujourd'hui la Pologne ou l'Espagne, et que demain cet État décide d'interdire l'exploitation de gaz de schiste, l'entreprise pourra attaquer l'État pour atteinte à ses profits. Et cet accord de libre-échange, il a été négocié dans l'indifférence générale et il sera signé tout aussi discrètement, probablement en 2013, à moins d'un sursaut des sociaux-démocrates européens. Mais bon, c'est pas le genre.
Bah, moi j'ai confiance dans François.
Oui, d'ailleurs, il est en train de signer les mêmes contrats avec l'Algérie en ce moment, ou la Tunisie, donc on peut lui faire confiance.
entre deux sodomies avec, avec Mittal.
Alors nous continuons avec les personnalités réjouissantes. Nous avons parlé de Depardieu cette semaine, d'évasion fiscale. On va aussi parler du Figaro Magazine avec Boris.
Voilà, tout à fait. Alors 2013 approche, vous n'avez pas eu cette année la joie de fréquenter la salle d'attente de votre médecin généraliste ou celle de votre dentiste favori. La chance est de votre côté. L'année s'annonce bien, jouer à l'euro million ou au banco. Si vous avez renoncé à des soins médicaux pour des problèmes financiers, voilà une bonne résolution à prendre pour l'année prochaine. Mais vous êtes passé à côté d'une perle fin octobre, le supplément hebdomadaire d'un quotidien tombé d'un avion, le Figaro Magazine. 200 pages de pub et de conseils pour ne pas payer d'impôts en France, parce que quand même la gauche est passée. Alors Jean-Marc se l'est procuré, on ne sait comment. Le titre en gras, comme Serge Dassault, « Hausse d'impôts, la fronde fiscale ». Et en sous-titre, « Les contribuables indignés, les entrepreneurs mobilisés ». L'image est forte. 29 entrepreneurs réunis, pris en photo pour convaincre le gouvernement. Le bandeau en rouge, en bas de couverture. Comment sauver notre argent? Dossier spécial, 50 pages. Et là, vous vous rendez compte que vous avez raté quelque chose. Sauvez votre argent, bande de nazes, bande d'incrédules et d'analphabètes financiers. Après ce moment de stupeur, on découvre une manchette amovible de une et une pub pour une webbank à la con. L'image représente une femme assise en sépia, avec collé sur sa taille la phrase « Mon autre passion, c'est l'argent ». On ne saura pas quelle est sa première passion principale, mais entre nous, on s'en fout, la messe est dite. Et là, je me rends donc en page 137, cahier spécial placement, et je tombe à nouveau sur une pub « Qui est le mieux placé pour vos placements ?» Je ne vous dirai pas, bien sûr, de qui il s'agit, car ce serait leur faire de la pub gratuitement, et le CSA pourrait me taper sur les doigts. Et soudain, c'est le festival. Épargne, fiscalité, immobilier, défiscalisation, bourse, placement, anti-impôt. Un vrai feu d'artifice, jusqu'au conseil pour bien préparer votre expropriation. On n'est pas à l'incitation à l'exil fiscal, mais pas bien loin. Depardieu, lui, n'a pas besoin de lire le Figaro. Il paye une blinde un conseiller fiscal pour qu'il lui explique comment ne pas payer d'impôts. Cool, non? Comme ça, t'es tranquille. Ton pèse au Caïman, ton or en Suisse, tes stocks options sur Mars et ta maison en Belgique. Du coup, tu restes français, mais tu ne contribues pas trop parce que quand même, c'est pas facile d'être riche. Et tu rôtes un coup de champ en te disant, ça au moins, ils ne l'auront pas. Les Échos nous expliquent, pour les particuliers fortunés, la Belgique est très attractive en matière de fiscalité des plus-values et du fait de son absence d'ISF. Le village de Neschin, proche de la frontière où l'acteur a élu domicile, compte 27% de Français et abrite notamment les membres de la famille Muliez qui possède le groupe Auchan. La Suisse est le pays où s'installe le plus grand nombre de ménages français fuyant l'ISF. Suivent la Belgique, le Royaume-Uni, puis les États-Unis, le Maroc et l'Italie. L'exil fiscal s'est un peu ralenti en 2010 d'après une étude du syndicat Solidaire Finances Publiques. 717 redevables de l'ISF ont quitté la France cette année-là, contre 809 en 2009. Il faut estimer qu'à peu près entre 200 et 300 000 personnes paient l'ISF. L'uniformisation de la fiscalité européenne et la disparition des paradis fiscaux au sein de l'Europe est une nécessité urgente afin d'éviter qu'une petite élite de nantis puisse éviter la contribution qui est due par tous et profiter du dopping fiscal qui est mis en place par les pays pour inciter l'usurier à s'y installer. Chacun des pays a son paradis fiscal juste à côté. Rappelons qu'en Europe, il existe bon nombre de paradis fiscaux. Gibraltar, Chypre, Malte, l'île de Man, les îles anglo-normandes, Jersey, Guernesey, Seychelles, l'Irlande, la Luxembourg, Monaco, Royaume-Uni et la Suisse. Ça fait beaucoup. On se demande qui sont vraiment les pigeons. En tout cas, j'ai pas relu Astérix chez les Belges. Mais pour Obélix, on voit qu'il botte en touche. Et contrairement au mannequin pisse, il pisse pas beaucoup et pas bien loin. À défaut de pisser dans une bouteille.
Bon, et puis il faut rajouter à l'exil fiscal les dispositions qui permettent aux entreprises super bénéficiaires de payer pot de balle d'impôts comme c'est le cas de Total.
Exactement.
Et nous allons maintenant écouter une petite chanson faite en interne par Patrick avec la foule en délire qui vont faire des pom-pom-pom. La chanson s'intitule « Le valse à mille temps ».
Premier temps de Manuel Valls, ce que j'entends m'étonne déjà. Au premier temps Manuel Valls, je m'inquiète car je m'aperçois que le ministre prend des mesures qui ne vont pas de soi. Que le ministre prend des mesures, et je murmure tout bas. Le Valls prend le temps d'offrir aux immigrants, d'offrir aux sans-papiers de se faire réexpédier au-delà des frontières, aujourd'hui comme hier. Valls prend aussi le temps pour les manifestants d'améliorer encore la raison du plus fort contre ces braves gens en bien les encadrant. Valls prend encore le temps d'approuver largement qu'on resserre la bride et qu'on livre à Madrid la petite Martin la Basque en raison de ses phrases. Valls prend même le temps de garder quelques temps, d'enfermer des enfants en centre de rétention. Ce n'est pas la prison, mais guère plus réjouissant. Valls prend soudain le temps de courir à plein temps dans le 93, dans le port de Marseille, et d'aller jusqu'en Corse pour voir si ça se corse. Et Valls a mis le temps de comprendre brusquement qu'il n'aura pas le temps de patienter 5 ans dans ce gouvernement qu'avance si lentement. Au deuxième temps, Manuel Valls, je l'entends donner de la voix. Au deuxième temps, de Manuel Valls, on l'entend crier son effroi que l'UMP, c'est de l'imposture. L'UMP nous a mis aux abois, mais l'UMP lui casse la figure. Manuel Valls regrette déjà. Et Hollande qui prend des mesures, Hollande qui mesure notre émoi, lui donne une leçon de mesure, car l'UMP fredonne déjà. Valls démission, il n'y aura plus d'émission pour le Valls à deux temps dans ce gouvernement et son rythme hésitant. On entend s'indigner tous ceux qui ont valsé, qui se sont fait larguer aux dernières élections, qui ne l'ont pas digéré et qui dansent en rond. Il y a le Copé, il y a Morano, il y a encore le Copé, il y a la Kosciusko, il y a toujours le Copé, il y a même le Sarko, et tout ce monde valse, Sarko valse, Sarkopé valse, et ça valse, et ça valse, pour 1000 ans.
Eh bien, bravo Patrick, pour cette chanson, le Vals à 1000 ans. Et nous terminons, comme d'habitude, par l'agenda, avec en premier Boris. Boris qui nous parle de la manifestation Mariage pour tous, pour l'égalité maintenant, contre les discriminations tout le temps.
Voilà, ce sera le dimanche 16 décembre à 14h, place de la Bastille à Paris.
Et si vous voulez en savoir plus sur le mouvement des indignés, le mouvement Réelle Démocratie maintenant, ce sera le dimanche 16 novembre à 15h au 104 dans le 19e.
Alors, il y a une projection débat sur les nouveaux du film Les Nouveaux Chiens de Garde de Yannick Kergoat et Gilbert Bastre, proposé par Attaque 20e. Ça a lieu au lieu-dit, 6 rue Sorbier, Paris 20e. Et en quelques mots, les médias se proclament à 16h, pardon, le dimanche 16 décembre 2012, on me fait signe. Les médias se proclament à contre-pouvoir et pourtant la grande majorité des journaux, des radios et des chaînes de télévision appartiennent à des groupes industriels ou financiers intimement liés au pouvoir. Au sein d'un périmètre idéologique minuscule se multiplient les informations prémâchées, les intervenants permanents, les notoriétés indues, les affrontements factices et les renvois d'ascenseurs.
Ensuite, une histoire de la Révolution française avec une présentation de Éric Hazan le mercredi 19 décembre à 19h30 à la librairie de l'Escalier, 12 rue Monsieur le Prince dans le 6e.
C'est bon de faire la Révolution rue Monsieur le Prince.
Une soirée d'information, la démocratie, mythe ou réalité. La démocratie est représentée comme est présentée comme le summum de la civilisation, le modèle assurant la liberté au peuple. Nous quitterons cette représentation mythique pour une approche plus prosaïque. La démocratie, c'est une construction historique, la résultante des luttes. Et les conquêtes populaires, pour s'émanciper de l'oppression des élites, ne seront jamais définitivement acquises. C'est le jeudi 20 décembre à 19h30, à Culture et Liberté, 5 rue Saint-Vincent-de-Paul, à Paris, dans le 10e arrondissement. Il faut s'inscrire au 01 47 70 37 50 ou par mail à alexcultureliberté, tout attaché, @gmail.com.
Alors, une information de dernière minute vient de tomber sur nos téléscripteurs. J'ai toujours pensé pouvoir un jour dire cette phrase. Jean-Marc va nous parler des cantines en Seine-Saint-Denis.
Oui, alors la Seine-Saint-Denis, c'est un département qui était communiste et qui est devenu socialiste. Bartolone en était le chef, il n'en est plus le chef.
On ne dit pas socialiste, on dit PS.
Puisqu'il est le chef du Perchoir, il est le président de l'Assemblée nationale. Mais les socialistes continuent de gérer super bien.
Alors, on met des guillemets.
Il profite des règles budgétaires laissées par la droite pour faire du passe-passe comptable, pour faire passer une diminution des moyens alloués au collège du département pour une augmentation. C'est fabuleux, il faut vraiment se pencher dessus pendant 3 heures pour comprendre l'arnaque. Exemple, les cantines. Il y a une subvention du département aux cantines qui est présentée comme une augmentation. Et c'est vrai, c'est en augmentation par rapport à l'année d'avant. Mais dans le même temps, il y a une hausse très conséquente des prix des repas pour les 30% de parents les plus aisés, ce qui n'est pas encore très élevé dans le 93, mais ce sont les plus aisés du 93. Et pour les profs qui mangent dans les cantines, ils n'ont en général pas le choix puisqu'il n'y a rien autour. C'est assez amusant quand on fait le calcul sur une année du nombre de repas pour la frange des 30% de parents qui vont payer beaucoup plus les repas des profs, on se rend compte que l'augmentation est complètement compensée et même dépassée. L'augmentation de l'allocation de base est complètement dépassée par ce que vont payer en plus les familles et les profs. Joli, non ?
Joli, et ça termine notre émission. Donc on va remercier tous les membres présents de l'équipe d'animation, donc évidemment Patrick qui a joué le rôle de Salvador Dali et le rôle du chanteur brélien le Valsamiltan, Jean-Marc qui est aussi notre invité, Jean-Marc Jacob, tout le monde a reconnu sa voix évidemment, Magali, Boris, Gaël, Alex qui vient de participer, et à la technique Claude et Sylvain. On termine avec Dave Brugeck.